il faudrait parler du mystère de la présentation de Marie au Temple. J'en fais très, très peu, parce que très peu de temps, simplement allusion. Parce que l'Église, dans sa dévotion pour Marie, puisque ce n'est pas dans l'Écriture, a fêté cette présentation de Marie au Temple. C'est-à-dire la consécration de Marie à Dieu. Alors, c'est très délicat au point de vue théologique. Au point de vue théologique mystique, je crois qu'on peut faire allusion à cela, parce que ça fait partie de la liturgie. Et la liturgie est un lieu pour la théologie, et surtout pour la théologie mystique. En théologie scientifique, je n'en parlerai pas, mais en théologie mystique, oui. Oui. Alors, il faudrait faire tout un petit raisonnement. Vous voyez, la théologie mystique peut se servir de tout ce qui est symbolique. Et donc, se servir de la liturgie qui n'est pas directement révélée, mais qui est au fond comme une donnée de l'Église. C'est pas directement de foi, mais ce serait un manque de docilité à l'Église de supprimer une fête comme la présentation. Donc au point de vue théologie mystique, où le regard du théologien n'est pas seulement la parole de Dieu, mais aussi la tradition, le théologien peut s'en servir. Et on aurait alors là cette consécration de Marie qui serait déjà quelque chose qui, dans l'Ancien Testament, n'est pas courant. Et même, on peut dire que Marie le fait sous le souffle de l'Esprit-Saint, se consacrer à Dieu pour que Dieu vienne au secours de son peuple qui attend de Dieu ce secours, puisque le peuple Israël est sous le joug des Romains, il ne faut pas l'oublier. Et donc, sous la pression d'un pouvoir temporel qui ne reconnaît pas le véritable Dieu, Marie, poussée par l'Esprit Saint, se consacre totalement à Dieu. Et c'est la première consécration. Et l'Église l'a toujours considéré comme ça, comme la première consécration, comme le modèle de la consécration. Donc, au point de vue espérance, c'est surtout au point de vue de l'espérance que ce vœu prend toute son importance pour hâter la venue du Christ. Hâter la venue du Christ et venir sauver son peuple, Marie se consacre à Dieu. Elle se donne entièrement. aussi fait que Marie, officiellement, quand elle a été fiancée à Joseph, officiellement, elle a dû donc prévenir Joseph. On sent très bien, hein, que l'union de Marie et Joseph est officielle. Quand Marie est interrogée par l'ange, ou plus exactement, quand Marie interroge l'ange, elle dit « Je ne connais point d'homme ». Alors, elle est fiancée à Joseph et elle ne connaît point d'homme. Ce qui montre que ses fiançailles à Joseph sont tout simplement extérieures pour la communauté juive. Que dans le fond de son cœur, elle est consacrée à Dieu. Il y a quelque chose là qui est révélé. Marie dit, Marie ne dirait pas la vérité, je ne connais point d'homme. Si fiancée à Joseph, elle se considérait vraiment comme l'épouse de Joseph. Vous voyez ? Il y a donc là un mystère que l'Église a très bien compris. Et l'Église a très bien compris cela en voyant que Marie s'était consacrée à Dieu avant de rencontrer Joseph. Et que si elle a accepté d'être l'épouse de Joseph officiellement, c'est pour cacher son don à Dieu. Dieu peut très bien faire des choses comme cela. En terre chrétienne, c'est différent. En terre chrétienne, quelqu'un ferait comme Marie en se consacrant à Dieu et se marierait avec le désir de n'avoir pas de relation avec son mari et de ne pas avoir d'enfant, il n'y aurait pas de mariage. C'est pour ça que c'est très curieux ce cas. C'est une chose unique. Parce qu'on est dans l'Ancien Testament, il n'y a plus la même obligation. Si dans l'Ancien Testament, on pouvait, parce qu'il y avait une espèce de liberté plus grande au point de vue, le fort externe et le fort interne étaient plus séparés en quelque sorte. Il y a quelque chose qui est très frappant et très, très étonnant, la consécration de Marie à Dieu. Et quand Marie rencontre l'ange Gabriel, elle affirme « Je ne connais point d'homme ». Relevez seulement cela. Ce qui pose un petit problème et qui montre que cette présentation de Marie au temple était vraiment une consécration virginale de Marie à Dieu. Et ça fait partie de l'attente. Si nos vœux de religion, dans ce qu'elles ont de plus profond. C'est le mystère de Marie qui continue dans l'Église. Je crois que non, qu'on peut le dire. Le mystère de la consécration de Marie, dans son sommet, c'est de garder la parole de Dieu et d'en vivre. Vous avez ce texte de Saint Luc qui est très net. Quand Jésus prêche et que sa mère et ses frères, ses cousins sont là, on le dit à Jésus, ta mère est là qui t'attend. Et Jésus répond, ma mère, c'est celle qui garde, qui reçoit la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu, et qui en vit. Et Jésus ne bouge pas. Donc Jésus nous fait comprendre que au-delà de la conception selon la chair et le sang, la consécration de Marie est le principal. Ce que saint Augustin souligne d'une façon très nette, en montrant concepit in corde, prius concepit in corde, quam incarne. Donc Marie, à l'Annonciation, a d'abord conçu le Verbe de Dieu incordé dans sa foi et dans sa charité. Quam incarné, la maternité physique. Ce qui fait comprendre que le principal, c'est bien la consécration du cœur de Marie à Dieu. Elle remet toute sa vie au bon plaisir de Dieu. Et c'est cela qui est gardé dans l'Église par la consécration religieuse. Vous voyez, en théologie mystique, je peux dire donc que notre consécration à Dieu religieuse est de continuer dans l'Église le mystère de Marie. Dans ce qu'il a de premier, concepit in corde. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Ça me semble très important, ça. C'est assez subtil, mais je crois que c'est très important. Je pense avoir la consécration religieuse, comment devons-nous la voir? Quand vous regardez le traité de saint Thomas prend le point de vue formel, mais le point de vue final, il n'est pas pris. Alors, encore une fois, je crois qu'il y a une possibilité pour nous de concevoir la vie religieuse au-delà du point de vue formel, d'essayer d'en comprendre la finalité. Et ceci repose sur ce que saint Augustin dit, prius concepit in corde, quam incarne. Donc elle a d'abord conçu dans son cœur avant de concevoir dans sa chair. Et ceci, c'est le mystère de la maternité divine de Marie. Donc, le concepit in corde, c'est le propre de la foi chrétienne, de concevoir dans son cœur le Verbe qui s'incarne de la chair humaine, le mystère de l'incarnation. Et dans l'Église, il me semble, dans l'Église, il faut que ce mystère soit gardé, vécu. Et il est vécu par la vie religieuse. Ou dans la vie religieuse, la consécration à Dieu permet aux chrétiens, aux enfants de la Sainte Vierge, de vivre de ce concepit in corde. Prius, donc ce qui est principal, ce qui est premier. Il faut y réfléchir, là. Si vous avez des objections à ça, ça m'intéresserait beaucoup que vous les notiez. Parce que, vous voyez, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais quand on lit saint Thomas sur la vie religieuse, on reste très fort dans sa fin. On dit, c'est curieux, c'est bien ce qu'il dit, c'est très correct et c'est très beau, mais c'est court, c'est très court. C'est la cause formelle. La cause finale, mais pourquoi la vie religieuse? Pourquoi la vie religieuse? En disant, ah, pour être entièrement consacré à Dieu. Vous aimez? On vous répondra, on peut être aussi consacré à Dieu dans le mariage. Et il y a des mères de famille qui sont consacrées à Dieu plus que des religieuses. Ça, c'est sûr. Alors, ça n'exprime pas vraiment le mystère de la vie religieuse. Or, le mystère de la vie religieuse prend une grande importance dans l'Église orthodoxe. C'est mis en pleine lumière, puisque seul un religieux peut être nommé, peut être consacré évêque. Dans notre vie catholique, on sait très bien que le point de vue de la vie religieuse est constamment ignoré. On ne fait pas attention. On dit c'est en dehors, avant tout, la hiérarchie. Je me souviens, c'est un petit détail. La dernière fois que j'avais vu le cardinal Hume à Londres, on s'aimait beaucoup. Hein. Et bon, je suis parti, il m'a dit, c'est vous qui devez me bénir, donne la bénédiction. J'ai répondu, Éminence, la hiérarchie. Alors, il a compris, je me suis mis à genoux, il a donné la bénédiction, mais je n'étais même pas levé, qu'il était à genoux, en face de moi. Donc, il avait obéi à la hiérarchie, il était premier, immédiatement après, il a voulu reprendre le primat de la religieuse. Il savait ce que c'était, puisqu'il était moine. J'ai trouvé ça très beau, moi. Et il avait, on ne le savait pas, il avait un cancer déjà très avancé, puisque un mois après, il est mort. C'est comme un testament. Très touchant. Et il y a quelque chose comme ça, il me semble, que si on prend le point de vue de la théologie mystique, pour comprendre la vie religieuse, on ne peut comprendre la vie religieuse que d'un point de vue de théologie mystique. Alors, d'un point de vue de théologie mystique, la vie religieuse, c'est suivre Marie. D'où l'importance de sa consécration. Et qui n'est pas officiel dans l'Église, c'est pas dans l'Écriture directement, mais c'est dans la tradition. Et au point de vue théologie mystique, je peux prendre cela comme une raison, puisque la tradition garde les secrets d'amour. C'est propre de la tradition, c'est de garder les secrets du cœur. Tandis que la théologie scientifique, elle regarde l'intelligibilité de la parole divine en premier lieu. Et je crois que ce serait pour nous une compréhension beaucoup plus profonde de notre vie religieuse, de comprendre que notre vie religieuse, c'est nous mettre à la suite de Marie, à la suite de celle qui est première, et à la suite de Jean, de saint Jean. Et nous devons comprendre que, en tant que saint Jean est notre Père, nous avons une mission tout à fait particulière pour éclairer dans l'Église le mystère de la vie religieuse. Et il me semble que c'est mettre cela en valeur. Réfléchissez-y, parce que je le dis ici comme ça, comme quelque chose d'important. C'est, ça va dans cette théologie mystique, vous voyez. Et c'est pour ça que je reprends ce point de vue de la consécration de Marie. Qui est au fond une fête religieuse, une fête pour les religieux. Ça a toujours été comme ça, c'est une fête pour les religieux. En dehors de ça, on n'en parle pas beaucoup. Et je crois que ça montre la finalité de la vie religieuse. Être dans l'Église, le mystère de Marie, qui constitue. Se consacrer totalement à Dieu pour garder la parole de Dieu et en vivre d'une façon plus immédiate. Alors, après la présentation de Marie au temple, Alors, ceci, c'est très important, puisque c'est le point de départ du Nouveau Testament. C'est enfin le terme de l'attente. C'est important pour nous de bien voir comment Dieu a réalisé cela. Puisque en Marie, dans le cœur de Marie, il y a le passage de la foi de l'Ancien Testament à la foi chrétienne. Le premier acte de foi chrétienne, c'est Marie qui l'a réalisé dans son corps. Prius concepit in corde. Alors, je crois qu'il faut qu'on s'arrête un peu sur ce mystère de l'Annonciation. Je l'ai déjà vu avec vous, et c'est pas inutile d'y revenir. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Donc, l'ange Gabriel vient au sixième mois, après qu'il a rendu visite à Élisabeth pour Jean-Baptiste. C'est au fond très intéressant de voir que, au point de vue temporel, le mystère de l'Annonciation est relatif à une autre annonciation. L'annonciation faite à Zacharie est antérieure. Ça signifie quelque chose dans le gouvernement divin. Alors qu'il est évident que l'Annonciation, au point de vue du gouvernement divin, est plus importante que l'Annonciation faite à Zacharie. Alors, c'est très curieux, cette espèce de jeu. La sagesse joue entre l'importance, au point de vue profond, au point de vue sagesse divine, et la relativité, au point de vue temps. Je crois que nous devons y réfléchir, puisque c'est révélé, et c'est dit. Est dit explicitement le sixième mois, alors que cette annonciation faite à Marie est autrement plus importante. Elle a une dignité, une grandeur beaucoup plus grande. Et cependant, elle est relative au point de vue temps à l'autre. Ordinairement, pour signaler l'importance d'une chose, le point de vue du temps, qui est la manifestation de la chose, est mis en pleine lumière. Et ici, la manifestation, elle est relative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On doit demander au Saint-Esprit ce que ça signifie. Alors, je crois, c'est une explication, je crois que pour nous faire comprendre que la question du temps relatif au temps, à notre temps, dans le regard de la sagesse de Dieu, n'est pas premier. C'est pas ça qui intéresse Dieu en premier lieu. C'est le contenu même de cette annonciation. C'est la valeur elle-même de l'annonciation. Pour que nous ne mêlions pas deux choses, la question historique et le regard éternel. Ça va très loin, ça, vous voyez. Est-ce que ça ne signifie pas que la question historique est toujours relative et donc n'implique pas de sagesse? C'est pour ça que, comme question, c'est assez délicat. Mais ça signifie quelque chose. Jamais une chose indifférente, surtout quand il s'agit de l'incarnation. Tout prend une valeur, une importance magistrale. C'est l'annonciation de l'ange à Marie, c'est quand même un événement capital pour le gouvernement divin. Pour le gouvernement divin, cette annonciation faite à Marie est beaucoup plus importante que l'annonciation faite à Zacharie. Et au point de vue du temps, celle de Marie est faite relative à celle de Zacharie. Comme tout ce que Dieu fait est fait avec mesure, est fait avec sagesse, sans caprice, ça signifie quelque chose pour nous. Alors, c'est là où je pose la question. Ça signifie, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que la question du temps n'est jamais un absolu. C'est le regard vertical de Dieu, le contenu qui est l'absolu. L'annonciation faite à Zacharie est relative à celle faite à Marie, au point de vue valeur, au point de vue importance, au point de vue finalité. C'est sûr, je crois que ça n'offre aucune difficulté, ça. Tandis que Dieu a voulu cacher davantage son secret. De mettre l'annonciation faite à Marie relative à celle faite à Zacharie. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire plus profondément encore que la question du temps historique dans le temps, ne rejoint pas l'ordre de sagesse divine. Je ne peux pas m'appuyer sur l'ordre du temps pour comprendre l'ordre de valeur divine. Alors, ça, c'est très important pour nous. Parce que ça nous montre qu'il n'y a pas de sagesse dans le point de vue historique. Mais, puisque aujourd'hui, il y a cette grande tentation de trouver que l'histoire nous donne une sagesse. C'est la grande tentation. Que l'histoire ait sagesse. Alors, je vois, moi, dans cette petite indication, le signe que la sagesse échappe à l'histoire. Parce que la sagesse part d'un premier divin. Et l'histoire part de premier humain dans le temps. Il faut réfléchir à ça, parce que c'est important. Il ne faut pas se laisser prendre et séduire par ce que le monde dit. Et il faut essayer par tous les moyens de comprendre le langage de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est quand même toujours très mystérieux de voir que ces deux grands événements, dans le temps, évidemment, l'annonciation faite à Zacharie est première. L'annonciation faite à Marie. Marie est mise relativement à celle faite à Zacharie. Le sixième mois, c'est mis comme un absolu le sixième mois. L'annonciation faite à Zacharie est bien une référence à l'annonciation faite à Marie. Point de vue sagesse divine, c'est différent. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et entrant chez elle, il dit « Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Donc, une salutation pour réveiller Marie, pour l'éveiller à ce que l'ange va lui annoncer, à cette parole. Elle fut toute troublée et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit, donc, on voit ce que cette salutation provoque dans le cœur de Marie. Une émotion très forte. Elle fut toute troublée. Et elle n'est pas retournée sur elle-même. On voit d'une façon absolue, elle est troublée. C'est-à-dire, elle est dans un étonnement qui la bouleverse complètement. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie. » Première parole. « Sois sans crainte, Marie. » C'est bien la parole du Saint-Père au début de son pontificat. Trouver grâce auprès de Dieu. Et voici que tu concevras, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, pour tous les siècles. Et son règne n'aura pas de fin. Et l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera? Je crois que, après ces paroles, il y a comme un grand silence. Marie reçoit ces paroles dans son cœur. Elles sont bouleversantes hein, pour Marie. Marie qui a été éduquée dans une foi au Dieu unique. L'ange lui révèle le mystère de la très sainte Trinité, le mystère de la paternité du Père. Il y avait Dieu qui est. Et lui-même, tout est. L'ange révèle à Marie un mystère. Qui regarde Dieu, qui regarde le Père. Puisque il regarde son Fils. L'ange demande à Marie de recevoir son fils, de le recevoir de telle manière qu'elle en soit la mère. C'est une révélation bouleversante pour Marie. Le passage de l'adoration à Yahvé, je suis celui qui est. Et Marie adorait sûrement avec un très grand amour son Dieu. Ce Dieu est regardé d'une façon toute nouvelle, dans un approfondissement nouveau, puisqu'il est regardé face à son fils bien-aimé. C'est très étonnant de voir que Dieu révèle son secret, le grand secret de Dieu. Il révèle son secret. À une mère. C'est-à-dire, en révélant ce secret, il transforme Marie et lui demande si elle accepte d'être mère. secret n'a pas été révélé au grand prêtre, au docteur de la loi. Ce secret est révélé à une petite enfant de Dieu. Ils étaient consacrés entièrement à Dieu. Vous voyez comment la consécration religieuse à Dieu ouvre notre cœur et notre intelligence à recevoir les secrets de Dieu, la parole de Dieu. C'est bien cela, ce premier moment. Et Marie doit recevoir ce secret de Dieu dans la foi, c'est-à-dire comme quelque chose, comme une vérité qui dépasse complètement tout ce qu'elle pouvait concevoir, tout ce qu'elle pouvait attendre par elle-même. Et elle entre dans une révélation à Dieu qui fait que le mystère de Dieu, le secret du mystère de Dieu est pour elle. Elle communique avec Dieu dans ce secret. Je crois que ça fait comprendre, du moins ça aide à comprendre comment la foi chrétienne nous met tout de suite en contact personnel avec la vie intime de Dieu, la vie intime du Père, et le secret de cette vie intime est communiqué même de l'attente à le don nouveau que le Père réalise pour son peuple, le don de son Fils. Il faudrait presque mettre tout de suite là la réponse de Marie. On y reviendra. Son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que la demande de Marie, Marie, pose tout de suite le comment. Alors, à ce moment-là, nous voyons comment la foi va illuminer et transformer ce comment qui est reçu, lui, dans la prudence, informée par la foi. Mais ce n'est plus la foi. La foi, c'est recevoir le message de Dieu. Que Marie soit la mère du Fils du Très-Haut.